Alors, on dit quoi?
Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Alors on dit quoi. Je suis ravie de vous retrouver encore ce samedi. Les séries télé, les émissions de divertissement, la musique, nous en consommons énormément et encore plus avec les offres des plateformes de téléchargement et de diffusion en ligne. Des offres à la demande ou tout simplement à travers les médias classiques, la télévision et la radio. Comment influence-t-elle la vie des jeunes sur le continent africain? La pop culture façonne-t-elle leur vision du monde? Nous en parlons aujourd'hui dans Alors on dit quoi.
Alors on dit quoi? Fenaï Traoré.
Je reçois aujourd'hui Jennifer Padjemi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialiste de la pop culture et autrice de Féminisme et pop culture publiée aux éditions Stock. Également avec moi, Manu Kaoyomo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes web activiste ivoirienne, blogueuse et autrice de plusieurs ouvrages dont le dernier paraîtra bientôt chez L'Harmattan. Il est intitulé « Le féminisme africain à l'ère de la soumission féminine, l'insoumise fait peur ». Le premier qui est intitulé « Je ne voulais pas vivre ma vie, les prisons d'une âme en peine ». C'est bien ça?
Oui, c'est cela même.
Bienvenue à toutes les deux. Alors, on va jouer à un petit jeu. Vous aimez le jeu ou pas?
Oui, ça dépend
de quel. Un petit jeu tout simple. Alors, je vais vous faire écouter un mix de génériques, de séries, et vous me direz si ça vous parle.
Gisngako fula jigen rombu danan rombu nala da xol nga ko lo gis limu sol wala yow li ci xolam sen nga ko ni mu mel wala liko sonal yow mo nga yek jigen bo gis ni muy noppé nonu lay muñe jigen bo gis da jenga yow ak atuna
sema fami.
Merci à Guillaume pour ce joli mixage. Alors, je vous voyais déjà sourire, hein, Jennifer Padjemi. Vous avez reconnu quelle série?
Alors, j'ai reconnu Grey's Anatomy, Modern Family, bon, parce que j'ai un peu triché, et le troisième, je sais pas, et le dernier, c'est Maîtresse d'un homme marié.
Alors, Manu Kaoyomo?
Ben, la même chose pour le troisième, je dirais Lucifer.
Non, il n'y a pas Lucifer.
Ah bah, j'ai menti alors.
Il y a Modern Family, il y a Grey's Anatomy,
oui.
Il y a Casa de Papel.
Ah, c'est ça,
voilà. Okay. On se disait.
Il y a ma famille.
Il y a un piège quelque part.
Voilà.
Tout chaud.
Voilà, c'était le petit jeu et voilà, on passe aux choses sérieuses maintenant. Jennifer Padjemi, votre ouvrage Féminisme et pop culture, ça parle essentiellement hein, de la scène pop culture occidentale. Est-ce à dire que c'est un concept qui n'est pas très développé en Afrique?
Non, pas du tout. J'ai eu ce retour récemment de la part d'une lectrice qui me disait qu'elle avait beaucoup aimé la lecture et qu'elle trouvait que c'était important de le mettre dans un contexte local. Oui. Mais elle reprochait le manque de visibilité de la scène africaine. Et en fait, je pense que j'aurais pu en parler, mais ça aurait été différent. Je pense qu'il faut rester dans un angle très précis. Et mon angle, c'était vraiment de visibiliser les années 2010 et de comprendre comment cette décennie avait été charnière dans les questions de société vis-à-vis de la pop culture. Et donc, on parle souvent des États-Unis, de l'Angleterre, etc. Et j'avais envie de pouvoir prendre ce qui se passe chez eux pour pouvoir le comparer à ce qui se passe chez nous et en tirer des conclusions. Et donc, je me suis dit qu'en intégrant le continent africain, ça allait faire peut-être beaucoup en termes de comparaison, d'analyse et de réflexion. Et je pense que ça aurait été un autre livre.
Voilà, on ne sait jamais. Hein, ça peut être le contenu d'un autre livre. Manu Kaoyumo, la pop culture, le divertissement, tout ce qui est série télé, la musique, c'est quelque chose qui est très, très important aujourd'hui dans nos vies. Surtout en Côte d'Ivoire, vous qui êtes ivoirienne, le divertissement est très développé.
Tout à fait. Il y a beaucoup de divertissement avec le coupé décalé et tout ça. Et on va dire que ça influence beaucoup les jeunes. On a beau dire, mais c'est vraiment une musique qui a beaucoup d'éteint sur les comportements, même des vieilles personnes, hein, parce que, comme on dit, il y a plusieurs générations qui ont été touchées par rapport à cette manière, nouvelle manière de fonctionner, cette nouvelle manière de voir les choses, en fait.
Et Jennifer Padjumi, quand on parle de pop culture aujourd'hui en Afrique, on pense à quoi et quoi, par exemple?
Alors, quand on parle de pop culture en Afrique, il y a une forme parfois d'impérialisme en fait venu de d'autres pays comme notamment les États-Unis qui veulent parfois en fait dominer sur des marchés qu'ils ne connaissent pas forcément et donc qui influencent le monde entier. Mais il y a aussi une culture très locale, une pop culture très locale qui commence à émerger et qui justement est en train de s'inverser. C'est-à-dire que c'est plus forcément l'Occident qui va vers l'Afrique, mais plutôt l'inverse. Et donc, je pense à des séries comme Maîtresse d'un homme marié, mais aussi à plein d'artistes, notamment de la scène nigériane, qui s'exportent, qui font des collaborations avec avec des artistes européens ou américains. Et donc, c'est à la fois la musique, c'est à la fois les séries. Et puis, si on parle du Nigeria, on sait que Nollywood a une place importante, en fait, dans le cinéma mondial.
On ne compte pas le nombre de films qui sortent de Nollywood par mois.
Clairement, mais après, je pense que l'idée, c'est plutôt de savoir si dans les prochaines années, Nollywood pourra vraiment aussi s'exporter en dehors du continent africain ou en dehors de festivals dédiés aux films africains. Et là, on parlera d'une révolution quand un film venu de Nollywood sera peut-être récompensé par, je sais pas moi, par un Oscar ou un prix prestigieux.
Et on voit de plus en plus, il y a des films africains, des séries africaines qui sont sur Netflix. Donc, ça veut dire que c'est un marché qui est en train de s'ouvrir et qui intéresse les plateformes internationales. Il y a des séries africaines, par exemple, que vous aimez suivre sur cette plateforme ou à la télé, Manu Kaoyumo?
Par contre, moi, j'avais regardé un film sur Netflix qui parlait d'une jeune fille qui se faisait harceler, Signature, je pense, c'était le titre. Et c'était un film de Nollywood et j'ai beaucoup apprécié. Et en même temps, il y a un autre film qui fait parler de lui, mais j'ai oublié le titre parce que je ne suis pas très Netflix, je ne suis pas très film. Oui. Comme je disais, moi, je suis plutôt une mangaka. Et
voilà. One Piece,
One
Naruto.
Naruto, tout ce qui va avec SNK. Et voilà.
Mais il y a une série sur Netflix qui se déroule en Afrique du Sud parce qu'ils ont ouvert le marché à l'Afrique par le biais notamment de l'Afrique du Sud. Et cette série, je crois que c'est Dark Water. Je suis pas sûre, mais c'est.
Je peux voir ce titre.
Je crois que ça cartonne. Et justement, il y avait cette idée que, pour une fois, c'est une dark skin. Elle est sud-africaine. Enfin, c'est vraiment local. Mmh. Après, à savoir si il y a les ressorts habituels de ce qu'on peut voir dans les séries occidentales. Ça, je sais pas, mais je sais que c'est une série qui marche bien.
Mmh. Et qu'est-ce que tout cela peut avoir comme impact sur la vision du monde de la jeunesse africaine?
L'impact, il est important. Je pense qu'il se déroule de la même manière où qu'on habite, que ce soit en Occident ou ailleurs. C'est qu'en gros, ces images, elles sont ingérées, elles sont diffusées depuis le plus jeune âge. Mmh. Et on se construit, en fait, à travers ces images, qu'on le veuille ou non. Il y a beaucoup de personnes qui pensent ne pas être impactées par ça, alors qu'en fait, si. Et la manière dont on peut comprendre une jeunesse, des courants de pensée, des évolutions sociétales, etc., peuvent être comprises en fait à travers ces productions audiovisuelles, à travers la musique, à travers le théâtre, enfin à travers en fait l'art de manière générale, avec la culture populaire qui se diffuse auprès d'un large public. Et c'est important parce que si on véhicule des choses plutôt négatives, ça aura un impact en fait sur son propre développement, mais surtout, ça je tiens à le rappeler, sur comment on regarde les autres, comment on envisage en fait des situations qu'on connaît pas forcément. Mmh. Et c'est vrai que je pense que pour le continent africain, il y a vraiment un enjeu sociétal important, notamment sur les questions de sexualité, les questions de
féminisme,
voilà, féminisme, les questions de aussi de maternité. Et tout à l'heure, enfin, vous venez de Côte d'Ivoire, oui. Et je pense en fait à cette émission qui a fait un buzz dans
oui,
le mauvais sens
voilà,
du terme
voilà.
parce que on a vu un viol en fait enfin une imitation d'un viol à la télévision
avec un ex-violeur
oui,
quelqu'un qui a été condamné
oui.
pour viol
et qui venait en fait justifier son viol en montrant
vanter.
Oui, et même vanter. Voilà, c'est encore mieux.
Et il y a même pas eu de réaction hein, sur
oui.
le plateau.
Mais oui. Tout et ça, fait. En fait, c'est typiquement parce que la pop culture, c'est aussi ça. C'est aussi les émissions de télé qui, en fait, arrivent dans de nombreux foyers, des millions de personnes oui. en fait qui regardent ça. Et imaginez qu'il y ait un enfant, en fait, un jeune garçon, par exemple, de 13 ans, qui regarde ça et qui se dit, bah, c'est normal. En fait, il n'y a aucun problème, c'est normal. Et donc, c'est en ça que l'impact de la culture populaire est extrêmement important et qu'il faut extrêmement faire attention à ce qu'on diffuse. Parce que sinon, on se retrouve avec ce type de contenu.
Manu Kayomo, justement, ça a beaucoup fait parler, hein, même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes ivoirienne, comment, et également militante féministe, hein, comment vous avez vécu ça? C'est un message violent et un mauvais message qui a été envoyé là en direct à la télévision.
On a très mal vécu et on a tout de suite réagi. Et ce qui a fait plaisir dans la foulée, c'est qu'on a eu beaucoup de soutien, notamment en ce qui concerne la Ligue ivoirienne des droits de la femme.
Et dont on vous a êtes membre.
Oui, tout à fait. Et on a eu à organiser un sitting qui a vu l'arrivée de 3 cargos de policiers pour à peu près une vingtaine de personnes. Mais en même temps, le fait que ça ait soulevé un tollé, que ce soit sur les réseaux sociaux, et on ait vu que l'animateur ait été, on va dire, sanctionné en griffe, parce que ça, je ne l'appellerais pas une sanction, mais plutôt des vacances. Mais en même temps, le fait qu'il y ait eu une réaction nous a beaucoup touchés. Et dans la foulée aussi, on a eu une publicité d'un grand opérateur économique, et de l'audiovisuel MTN Côte d'Ivoire qui a fait une publicité qui dénonçait aussi la culture du viol et on a vu que le message commence à passer un tout petit peu et les gens font oui. plus attention à ce qu'ils disent à la télévision en fait.
Nous irons tout à l'heure à Niamey et ce sera juste après cette chanson.
Stranger. Still don't know my
Vous êtes sur RFI, Still Don't Know My Name de Labyrinthe pour faire plaisir à Manu Kayomo qui est avec moi dans ce studio. Je suis également accompagnée par Jennifer Padjemi et nous parlons de l'influence de la pop culture sur les jeunes en Afrique. Comment les séries télé et la musique étrangère sont perçues au Niger? Je vous invite à écouter ce reportage de Bouli Adamou Agnani.
Au volant de son taxi, Iliassou, 22 ans, écoute sans arrêt du Dandali Soyeya. Une musique des films Kannywood, l'industrie cinématographique Hausa du nord du Nigeria. Le jeune taximan ne peut pas s'en passer.
J'aime écouter de la musique Hausa quand je conduis. Ça me galvanise et ça me donne du courage.
Iliassou fait partie d'une catégorie importante de jeunes Nigériens dont le divertissement principal consiste à regarder ou écouter les musiques et les films Hausa dont les acteurs et actrices sont des véritables vedettes. Une opportunité que Désiré, jeune entrepreneur, a saisie. Il investit très souvent dans des concerts en faisant venir au Niger des stars du moment.
Souvent, c'est les populations qui viennent vers nous pour nous proposer des artistes du moment. Et la plupart de ces populations nous proposent des artistes du Nigeria, notamment ceux de Kannywood. Ces artistes ont une grande notoriété ici au Niger. Et nous aussi, en tant que promoteurs, nous voulons gagner. Donc, pour gagner, il faut les artistes qui sont aimés. Nous avons l'habitude de faire des guichets fermés.
Pour d'autres jeunes, c'est les séries appelées telenovelas qui rythment leur quotidien. Dans beaucoup de foyers, la chaîne de télévision dédiée à ces feuilletons venant essentiellement de l'Amérique latine est permanemment suivie.
Ils disent que la maternité, c'est un truc qui doit rendre heureux et tout.
Samira Maïga, 25 ans, est une fan de la chaîne.
Et actuellement, je suis en train de suivre ma série sur novelas de vie. Il y a Force de l'amour aussi, je le suis aussi, et il y a aussi De vie. En dehors de novelas, je regarde aussi Z-Magique, à peu près 10 séries par jour. Ma manière de vivre, ça dépend des séries que je regarde, mais souvent il y a des comportements que vraiment moi aussi je sais que c'est pas bien, mais quand même, j'essaie un peu de le faire, mais pas tellement.
Téléphone à la main, Abdourachid, 19 ans, est emporté par un titre de Nino, ce rappeur français dont il est très fan.
Je suis un très grand fan de l'artiste Nino, je l'apprécie énormément. À part lui, j'écoute Dadju,
Kérosène, Fali Ipupa, Maître James.
Les telenovelas, les films Hausa, le rap français et américain ou encore le coupé décalé ivoirien influencent beaucoup les jeunes Nigériens, ce qui déplaît à beaucoup de parents. C'est l'exemple de Boubacar Yakuba, chef de famille.
Ma pensée envers les séries télévisées, elle est négative parce que quand tu es devant une télé avec ta famille et qu'il y a des scènes vraiment obscènes, c'est-à-dire ça dérange quoi. Tu es là avec tes enfants à bas âge et il y a des scènes de nudité qui sont insupportables. Moi, je pense que vraiment, les séries télévisées doivent être censurées à un certain moment.
Ismaël Falché est le directeur de programme d'une chaîne de télévision nigérienne. Il a consacré son mémoire d'études à l'impact du divertissement sur les jeunes.
Comme je suis dans une cour commune, j'entendais les enfants parler, se raconter une série télévisée qui m'a vraiment... le fait qu'ils racontent les choses en détail m'a vraiment étiqueté alors que je connais très bien ces enfants. Je savais qu'est-ce qu'ils font à l'école. Comme moi, ils n'ont pas de moyens, ils n'arrivent pas à vraiment assimiler le cours, mais ils arrivent à assimiler les séries télévisées, faute qu'on les laisse devant le petit écran. Et secondo, c'est la jeunesse nigérienne. Je suis jeune, c'est vrai. On peut dire que je suis jeune, mais je vois mes jeunes frères avec des styles qui ne me vont pas, vestimentaires, qui veut dire on fait les check-downs, on laisse son pantalon tomber, laisser son caleçon, ce qui ne cadre pas avec nos réalités socio-culturelles.
Comment cela transforme-t-il notre société? Écoutons Alou Aye, qui est sociologue.
C'est ce qu'on appelle de la manipulation, de la communication qui est manipulatrice. Parce que, voyez-vous, derrière chaque série, il y a des idées en filigrane. Il y a une orientation, il y a un objectif qu'on veut atteindre, ou bien celui qui a conçu la série veut atteindre. Et bien, en fonction de ça, il se donne les moyens pour faire une représentation virtuelle qui va finir par influencer le commun des mortels qui aura à suivre. Parce que le problème, c'est quoi? On va chercher un cadre, le décor, le plus beau. On va chercher des acteurs et des actrices qui répondent, qui sont au top. Et on va les placer. On va chercher les meilleures expressions, les meilleurs scénarios pour concevoir et puis mettre tout ce cocktail-là. Voyez-vous, c'est tout à fait normal qu'il puisse influencer les gens parce qu'aucune âme ne peut être assez résistante par rapport à un certain nombre de situations concrètes.
L'engouement vers le divertissement venu de l'étranger s'est fait au détriment des productions locales. Malgré des efforts fournis pour produire des contenus de qualité, les acteurs culturels peinent toujours à conquérir les jeunes Nigériens.
Le reportage de notre correspondante à Niamey, Bouli Adamou. Alors, Jennifer Padjumi, une réaction par rapport à ce reportage, est-ce que vous avez entendu?
Oui, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça montre que quel que soit le pays et l'Afrique en tant que continent et notamment l'Afrique subsaharienne n'est pas exempte de l'impact en fait que les productions télévisées, cinématographiques et musicales ont sur les gens. Et c'est intéressant aussi de voir que il faut le remettre dans un contexte très local et qu'on entend parfois. On a pu entendre chez quelques personnes une réticence par rapport peut-être à des mœurs personnelles ou une manière en fait d'envisager les choses. Et donc pour un homme qu'on a entendu, c'était choquant de voir parfois des scènes de sexe. Or, ces scènes de sexe peuvent aussi avoir leur utilité, leur importance auprès du public jeune, mais on voit que lui, il est tout de suite rattrapé
très
par
voilà. Apparemment.
Oui, c'est ça, par son peut-être une éducation, par un nœud familial plus traditionnel, et pour lui, c'est choquant. Donc, c'est intéressant aussi de voir que à la fois ça impacte de la même manière, mais que une éducation peut-être différente ou plus localisée peut aussi changer la réception qu'on peut en avoir.
Manu Kaoyomo, qu'est-ce qui a attiré votre attention dans ce reportage?
À peu près la même chose que Jennifer, mais sauf que de ce côté, on va rentrer plus dans une confrontation avec les traditions. Oui. Donc c'est quand la pop culture croise les traditions africaines. Et ça ne fait pas bon ménage.
Oui, ça c'est un autre débat.
Tout à fait. Parce que là, directement, on rentre dans un certain conservatisme et il est vraiment, on va dire, rigide, très très rigide pour certaines générations. Parce que plus habitués à des sujets tabous et le fait de les voir diffusés comme ça si facilement, c'est quelque chose qui peut les heurter tout de suite. Oui. Et ils veulent toujours empêcher ça. J'ai un exemple au Burkina Faso, il y a pas si longtemps que ça, il y a une série telenovelas qui passait une scène d'homosexualité.
Exactement. Il y a deux semaines.
Il y a eu un tollé pas possible sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi que vous voulez nous imposer ce genre de relations et tout? Vous voulez gâcher la vie de nos enfants? Et on voit tout de suite que, quoi que l'on dise, la télévision a un impact et la manière dont les gens perçoivent ce qu'ils regardent aussi les touche énormément.
Et cette histoire, d'ailleurs, la télévision a dû s'excuser. La télévision nationale s'est excusée pour cette scène, pour ce contenu. Donc, c'est dire comment les traditions et le conservatisme occupent encore et très très ancré dans les pays africains. Et même si la pop culture force un peu les portes, ça quand même ça reste difficile. On a entendu dans le reportage un sociologue qui parlait de manipulation. Tout ce qu'on voit, il parle de manipulation, on manipule les gens à travers ces images-là, à travers le divertissement. Vous êtes d'accord, Jennifer Padjemi?
Je suis d'accord dans une certaine mesure. mesure, parce que il se trouve que oui, la télévision nous manipule, oui, les plateformes de VOD nous manipulent et savent exactement quel point toucher pour nous émouvoir, pour nous faire réagir, pour nous faire aussi rester cette forme un peu d'addiction. Et ça, c'est quand même un pendant vraiment important à prendre en compte, parce que ce serait naïf de penser qu'on ne fait que regarder avec beaucoup de plaisir et qu'il n'y a rien derrière. Derrière, il y a une machine, il y a une économie qui fait en sorte que qu'on soit emporté dans tout ça. Mais on peut pas réduire le divertissement, la culture populaire, les productions audiovisuelles à ça, parce que derrière il y a aussi des créateurs, notamment de plus en plus jeunes, qui veulent s'inscrire dans une génération et veulent raconter leur expérience, leur pays, un contexte en fait très très particulier qui peut se mettre en image et qui compte pour comment les transmissions vont se faire et comment les générations futures vont le recevoir. Et donc c'est, oui, il y a une manipulation dans tous les cas parce que ça reste une industrie, mais le but c'est pas que de manipuler les gens, ça peut être aussi de les éduquer, de les aider et
ça
surtout
ça fait évoluer sur certains sujets comme le féminisme. On a vu comment la pop culture participe de l'émancipation des mouvements féministes ces dernières années. Votre livre en parle très bien, justement.
Oui, en fait, c'est une forme aussi de visibilisation sur certains sujets. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui parfois restent que dans des milieux soit universitaires, soit journalistiques, soit médiatiques, mais qui ne touchent pas forcément le grand public. Donc, effectivement, à travers la pop culture, ça permet de détendre cette réflexion. Et de la même manière, en fait, en Afrique, c'est en train d'arriver. C'est-à-dire que quand il y a un épisode sur la santé mentale qui est fait dans Maîtresse d'un homme marié, c'est des millions de personnes qui d'un coup se disent « Ah, peut-être qu'il faut que j'aille voir un psy » ou « Peut-être que ça peut m'aider » et « Peut-être que c'est pas que un truc de blanc, c'est aussi un truc très africain et moi aussi, je peux y avoir accès. » Et donc, on peut voir que ça permet de visibiliser ces sujets, mais aussi de marquer, en fait, un pan de l'histoire. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que les séries télévisées, les films, même des artistes le font, c'est que quand il y a un événement historique qui est en train de se dérouler en Afrique, le fait de pouvoir le mettre en image, c'est important en fait. C'est aussi un devoir de mémoire, c'est aussi une manière de mettre dans une capsule en fait notre époque.
Alors on dit quoi ?
Nous avons un auditeur qui souhaite s'exprimer sur notre sujet du jour, Gaspard Mouhaya, qui est à Bukavu. Bonjour Gaspard.
Oui, bonjour.
Merci à vous de participer à l'émission et bienvenue. Alors vous aimez bien hein, tout ce qui est contenu sportif, notamment le basket. Vous dites que vous êtes très influencé par ce qui se passe à la NBA.
Oui, exactement. C'est vraiment le sport qu'on a pratiqué quand on avait les jeunes âges. Bon, et puis ça a vraiment un impact. Hein. Ça nous a préoccupé pendant un moment et nous l'avons pratiqué.
Oui. Et qu'est-ce que vous aimez à la NBA ? Qu'est-ce qui vous influence ou qu'est-ce qui vous attire le fait de suivre des programmes de la NBA ?
Bien, le programme de la NBA, ce sont des programmes qui intéressent vraiment les jeunes qui pratiquent le basketball.
Oui.
Parce que de là, on retrouve beaucoup de talents. Nous avons plusieurs de nos compatriotes congolais qui sont maintenant à la NBA. D'ailleurs, Kuminga, les garçons qui a grandi même à Bukavu, et puis il est sorti de Goma pour aller être en NBA.
Pour arriver là-bas.
Voilà.
Et c'est une façon pour eux de s'identifier aussi aux stars du basket aux États-Unis.
Justement, les jeunes, quand ils jouent au basket, ils essaient un peu de s'identifier à des stars.
Oui.
Et puis ça leur permet peut-être d'améliorer leur façon de jouer, leur façon de voir les jeux.
Oui.
Vraiment, ça apporte quelque chose quand ils s'identifient à deux stars.
Et en dehors du basket, il y a d'autres sports qui influencent les jeunes aujourd'hui ?
Ah, exactement. Il y a le football, il y a le tennis. Hein. Pour le moment, ça commence à venir petit à petit.
Mm-hmm.
Mais il y a plus le football parce que c'est un sport qui est pratiqué depuis les zéro âge.
Et quand vous observez les jeunes aujourd'hui, comment ça les influence ?
Bon, est-ce que le sport influence les jeunes? Les jeunes essaient de s'identifier à des stars telles que, je peux donner un exemple, Messi, Ronaldo, chez nous ici,
oui.
Quand les deux matchs là se jouent, c'est tous les jeunes qui sont vraiment branchés, qui sont vraiment intéressés pour s'identifier à une ou l'autre équipe. Voilà.
Mais quand même, il faut avoir les pieds sur terre, se dire que ce sont des stars, donc tout le monde ne peut pas avoir, tous les jeunes ne peuvent pas avoir une vie comme ces joueurs-là.
Oui, justement, parce qu'il y a des illusions qui se mettent dans les jeunes, c'est-à-dire qu'ils essaient un peu de s'identifier à des stars, mais des fois ils oublient qu'ils ne sont pas là, ils sont chez nous en Afrique, et en Afrique c'est pas l'Europe, hein. Donc il y a ceux-là qui ont la chance peut-être d'avoir la chance d'aller en Europe pour exprimer leur talent. Mais souvent ici, chez nous en Afrique, quand les gens jouent au football, au basket, souvent leurs talents finissent vraiment dans la rue, comme on a toujours l'habitude de le dire. Mais ce qui est peut-être différent du football, au basket, si vous observez un peu les gens qui ont pratiqué le basket, la plupart d'eux sont vraiment des intellectuels, la plupart. Parce que c'est un sport qui est chez nous ici pratiqué souvent à l'école. Hein. On apprend les jeunes comment, disons, pendant les heures de sport, on peut les apprendre le basket, mais le football aussi. Mais vraiment, le basket, c'est vraiment pour les amis qui sont sur le banc de l'école souvent. Oui.
Merci beaucoup, Gaspard, pour cette contribution. Merci et très bonne journée à vous, à Bukavu.
Merci beaucoup aussi.
Jennifer Padjumi, est-ce que le sport fait partie de la pop culture?
Oui, complètement. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. D'ailleurs, quand on évoque la pop culture, on oublie que le sport, c'est même l'un des premiers, en fait, vecteurs de popularité, de diffusion, en fait, d'une forme de célébrité, d'une forme d'identification possible. Et ce que ce monsieur vient de dire est vraiment intéressant parce que au-delà de l'identification, il y a aussi une forme de rêverie. En fait, c'est que d'un coup, on se dit, j'ai peut-être envie d'être comme lui. Lui, c'est peut-être un Afro-Américain ou un Européen qui est à la NBA ou qui est footballeur. Mais en fait, ça donne de l'envie, en fait, de la motivation à des jeunes qui se disent, peut-être que je pourrais en faire mon métier.
Si lui il y arrive, pourquoi pas moi?
Oui, c'est ça. Et ça, c'est important aussi de le remettre en contexte, c'est que au-delà de l'identification, c'est vraiment comment ça permet à des jeunes de rêver, de se voir en fait eux-mêmes représentés dans des métiers ou parfois dans des domaines
qu'ils pensaient inaccessibles.
Oui, voilà. C'est à chaque fois on leur dit, toi ce n'est pas possible parce que tu habites à tel endroit, donc tu ne peux pas être un joueur de basket ou tu ne pourras jamais être au PSG. Et le fait de voir aussi des joueurs comme Drogba, des joueurs africains, Eto, etc., qui eux ont réussi et qui jouent aussi localement, parce que en plus d'être à Chelsea, ils sont aussi dans leur équipe nationale, et donc ça donne envie, ça donne de l'espoir.
Manu Kayomo, le sport aussi, surtout le football, hein, c'est très très important en Côte d'Ivoire avec des figures comme Didier Drogba. C'est quelque chose qui a beaucoup d'impact sur les jeunes.
Je vais vous donner un exemple. Hier, Messi a marqué et la toile ivoirienne était en feu.
Peut-être qu'il sait pas trop où se situe Abidjan.
et tout ça, mais juste pour vous dire que ça a vraiment un impact même sur la manière de penser de la jeunesse et même sur des jeunes qui font l'immigration clandestine, parce que j'ai eu aussi à travailler en tant que bénévole pour une association et j'ai croisé plein de jeunes qui ont fait cette immigration là justement pour venir à la recherche de clubs, et même parfois ils passent par la Tunisie, par les pays du Maghreb et tout ça, juste pour montrer à quel point le sport, on le dit pas souvent comme l'a dit Jennifer, mais a véritablement un impact dans la manière de penser des jeunes, leur manière de rêver aussi.
Et c'est important, je trouve, de de leur inculquer que c'est pas l'unique but non plus. Parce que avec des sportifs qui gagnent des millions, qui sont un peu des stars sur Instagram, qui ont leur femme qui ressemble à
des mannequins,
un stéréotype très précis, c'est aussi des rêves en fait, des fantasmes qui sont parfois pas toujours très très justes et ni réalisables. Ouais. Et c'est important de leur dire tu peux aussi faire du sport en amateur, c'est très bien. Tu peux devenir professionnel, c'est très bien aussi, mais le but c'est pas que d'être signé au PSG, de gagner je sais pas combien de millions par mois.
Exactement, et nous recevons tout de suite notre coup de cœur musical de la semaine. Bonjour Candy Guira.
Bonjour.
Avant de vous donner la parole, nous allons écouter le titre Africa que vous avez choisi pour nous. Alors, ce titre, Africa, est une collaboration avec le musicien canadien d'origine haïtienne, Joey Omicile. Comment est née cette collaboration?
Ah ben, cette collaboration, c'était une rencontre, on va dire. C'était une rencontre déjà humaine, avant même d'être musicale. Et du coup, c'était une chanson que j'avais déjà composée et je l'ai fait écouter parce que c'est quelqu'un, c'est un aîné dans le métier, c'est quelqu'un que j'aimais son travail déjà. Donc, je l'ai fait écouter. Il m'a dit, tu sais, cette chanson-là, j'aimerais qu'on la fasse ensemble. Je lui ai dit, avec plaisir. Et donc, vraiment, c'est parti comme ça. C'était un énorme honneur pour moi.
Et qu'est-ce que vous voulez dire dans cette chanson?
Mais cette chanson résume juste que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Tout le monde le sait. Mais je dis seulement à la diaspora africaine et aux Africains eux-mêmes de se lever et puis prendre soin de cette Afrique-là qui donne tant et qui continue à donner, et qu'en plus, nous aussi, bénéficier de cette Afrique-là, au lieu que les autres viennent se profiter de ça sans nous, quoi. Et voilà, c'est un appel à dire, levez-vous, marchez, enfin, voilà quoi, prenez votre part, quoi.
Et Africa fait partie de votre nouvel album, Naktaba. Naktaba, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en langue nationale morée au Burkina Faso?
C'est en langue morée. Comme on dit chez les Mossi. Donc, Naktaba veut dire ensemble pour le meilleur, voilà.
Et ensemble, justement, vous avez fait appel à beaucoup, beaucoup d'artistes sur cet album.
Exactement. Ensemble pour moi, qui est quelque chose qui est important pour moi, parce que pour moi, le salut du monde viendra dans le sens où tous, on va se donner la main en se respectant mutuellement avec nos différences, parce que c'est une richesse pour moi. Donc pour moi, c'était l'occasion d'inviter tous les artistes burkinabés, beaucoup des artistes burkinabés sur cet album-là, aussi pour montrer la culture burkinabé à l'extérieur du Burkina. Et dans un autre sens aussi, c'était aussi de pouvoir montrer en fait cette culture que je me suis faite aussi en étant en France. C'était pour créer un pont entre ces deux cultures, qui est ma culture nationale, qui est le Burkina Faso, enfin le pays le Burkina Faso qui est mon pays natal et la France qui est mon pays d'accueil. Et c'est deux cultures qui m'ont enrichi. J'avais voulu transparaître cela dans cet album-là.
Avant de sortir ce premier album officiel, vous avez été choriste auprès de grands noms, Cheikh Tidiane Seck ou Mou Sangaré. Est-ce que cette expérience vous a servi dans la construction de votre album?
Bien sûr, ça m'a servi, ça m'a enrichi surtout. Ça m'a surtout enrichi beaucoup, puisque j'ai appris auprès de ces personnes-là, qui sont toujours mes mentors et qui m'encouragent toujours sur ce chemin solo que j'ai choisi.
Alors, Candy Guerra, est-ce que vous aimez beaucoup les séries télé et, ou encore d'autres programmes de divertissement?
À vrai dire, j'ai pas trop le temps de les regarder.
Mais est-ce que le divertissement vous inspire un peu ou pas, des programmes télé au Burkina ou ailleurs qui vous inspirent dans votre travail d'artiste ou pas du tout?
M'inspire, c'est trop dire. Non, ça m'inspire pas du tout. C'est surtout que je trouve seulement que ça ralentit la jeunesse, quoi. C'est tout.
Oui. Ça a un impact négatif sur la jeunesse, selon vous, alors?
Je pense que ça les ralentit trop parce que ça les garde dans le rêve. Et sauf qu'il y en a qui n'ont pas la force de se lever pour aller réaliser leur propre rêve, donc à être dans des télé-nouvelles ou des trucs comme ça.
Oui.
J'ai l'impression en tout cas que ça les freine que plus que ça les avance à quelque chose.
Merci beaucoup Candy Guerra, dont le premier album solo intitulé Naktarba sort le 22 octobre. Et vous serez en concert.
Une plateforme de téléchargement,
oui.
Un CD et un vinyle.
Oui. Et vous serez en concert le 6 octobre au Petit Bain à Paris à 20h pour le lancement exceptionnel de l'album Naktarba. Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup à vous aussi. Merci à tous les auditeurs. Et je vous attends le 6.
Merci pour l'invitation. Alors, Jennifer voilà. Padjemi, alors Candy Guerra qui pense que ça a un impact négatif, ça freine les rêves des jeunes. Qui reste un peu dans les rêves des autres, si on peut le dire.
Oui, il y a une partie qui peut être vraie, dans le sens où à force de se projeter dans une forme d'imaginaire, d'un truc qui est pas forcément palpable, on peut se faire des rêves qui ne seront jamais réalisés.
Oui.
Mais après, il faut voir ce qui se fait en ce moment en termes de réalisation, d'écriture, où en général, les créateurs et créatrices sont plutôt dans quelque chose de très ancré dans une réalité, ou au contraire, plutôt que de faire rêver, on n'est pas du tout en train de parler de super-héros.
Oui.
Souvent, ils veulent montrer une réalité sociale, une réalité très contemporaine, donc au contraire, ça permet aussi de faire son propre procès, de voir où on en est dans sa jeunesse,
oui.
Où on en est dans son développement, dans son état d'esprit, même dans sa vie professionnelle. Et donc, je pense qu'au contraire, aujourd'hui, les créateurs et créatrices se veulent montrer une réalité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de science-fiction ou d'imaginaire fantastique qui est possible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on veut montrer, en fait, les mots de notre époque et la manière dont les jeunes en fait sont dans le monde sans visage les uns les autres, les relations interpersonnelles, etc. Donc c'est plutôt positif.
Et comment on peut utiliser la pop culture à bon escient aujourd'hui?
Bah, c'est tout le but justement d'en parler et de continuer d'en parler. C'est aussi pour ça que je le fais, c'est qu'il faut pouvoir renouveler en fait les plumes, renouveler en fait tout ce qui se passe en coulisses est aussi important que ce qu'on aura en résultat.
Mmh.
Et donc aujourd'hui, en fait, on peut utiliser la pop culture à bon escient en invitant en fait les bonnes personnes à y penser, à y réfléchir, que ce soit des femmes, des personnes en fait d'une génération soit très ancrée ou soit plus ancienne qui peut aussi transmettre en fait des pans de l'histoire, des pans d'expérience, mais aussi en parlant de sujets qui parfois fâchent dans certains milieux plus conservateurs, plus traditionnalistes, comme parler de sexualité au pluriel, parler d'orientation sexuelle, parler des droits
des minorités,
exactement, parler de la place des femmes et dans la société africaine, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on est, je dirais pas au début, mais on est en plein dedans, en fait, de ce changement, de cette révolution. Et justement, la pop culture permet d'appuyer ça encore plus et de montrer que les femmes sont pas minoritaires, elles sont présentes, elles sont là pour faire plein de choses. Mais pas que les femmes, hein, plein de, minorités dans la société africaine.
Manu Kawumo, comment on peut exploiter la pop culture, si je peux le dire, pour changer les mentalités positivement dans les pays africains, dans un pays comme la Côte d'Ivoire? Comment le divertissement peut contribuer à ça?
En faisant les choses intelligemment. Tout simplement. Pourquoi je dis intelligemment? Parce que il faut savoir puiser les avantages de cette pop culture-là pour pouvoir les diffuser. Parce que mine de rien, il y a aussi beaucoup de dérives, comme on le sait déjà.
Comme on l'a vu avec l'histoire du viol à la télé.
Tout à fait, tout à fait. Et prendre ce qui est bon, c'est aussi, par exemple, en parlant de sexualité, si on tombe sur une scène de sexe, comme on dit, on peut dire à son enfant, profiter de cet instant-là pour lui donner des cours. Mais la pop culture nous permet de lever les tabous et de faciliter le dialogue.
Oui.
Mais comment booster ce dialogue-là? Il faut trouver des solutions.
Surtout qu'on sait que dans les familles africaines, c'est très tabou de discuter en famille de ces choses-là.
Exactement, c'est... Ouf.
C'est laborieux.
Ouais, c'est très laborieux. Et donc... prendre cette pop culture-là et dire, ben, écoutez, voilà, il y a des choses positives, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Qu'est-ce qu'on doit laisser et qu'est-ce qu'on doit prendre? Et c'est sur ça que nous-mêmes, en tant que jeunes, nous devons réfléchir et nous mettre au travail.
Et votre dernier mot, puisque vous avez le micro?
Oui, mon dernier mot, achetez mon livre.
Voilà, c'est direct, c'est dit, c'est bien, voilà. Merci, Manu Kawumo. Alors, Jennifer Padjemi, vous aussi, vous voulez qu'on achète votre livre,
oui,
dernier mot.
Vous faites comme vous voulez, hein. Mais non, moi, le dernier mot, c'est que je trouve qu'en ce moment, il se passe de belles choses, notamment entre les liens entre Afrique et Occident, et notamment cette... une immigration en fait qui, enfin les enfants deuxième génération par exemple en France ou par exemple en Angleterre, enfin en Europe de manière générale, qui veulent raconter aussi les histoires de leurs parents. On veut en fait mettre en avant une immigration, des parcours migratoires qu'on n'a pas toujours eu, auxquels on n'a pas toujours eu accès.
Oui,
et je trouve qu'en ce moment il se passe quelque chose d'intéressant et il faut continuer en fait à avoir une vision plus diasporique en fait de notre africanité. Et ça, je trouve que c'est un bon signe pour la suite.
Les jeunes créateurs aujourd'hui sont très ouverts hein, sur le monde, sur l'Occident.
Oui, et je trouve que ça, c'est quelque chose de positif qu'il faut prendre en compte et il faut continuer de le faire, de montrer que être noir, être africain, en fait, c'est des expériences et qu'elles ne se vivent pas de la même manière où qu'on soit, mais qu'on peut en fait avoir quand même un dispositif qui fasse écho en fait à ces expériences diverses.
Ouais. Alors l'émission touche à sa fin. Jennifer Padjemi, journaliste spécialiste de la pop culture et autrice de l'excellent ouvrage Féminisme et pop culture paru chez les éditions Stock. Merci d'être venue nous voir aujourd'hui.
Merci.
Alors merci également à Manu Kawumo. Vous êtes web activiste ivoirienne et auteur de Le Féminisme Africain à l'ère de la soumission féminine, l'insoumise fait peur. Il sortira en octobre chez l'Harmattan. On a entendu, on va acheter votre livre.
Oui,
merci d'être venu.
Je vous en prie. C'est un plaisir pour moi.
Samedi prochain, nous serons à Montpellier pour le nouveau sommet Afrique-France. La jeunesse étant au centre des discussions de cette rencontre, plusieurs grands thèmes, l'industrie artistique et culturelle, l'entrepreneuriat, l'économie et les nouvelles technologies, l'engagement citoyen et l'enseignement supérieur et l'innovation sont au centre de ce sommet. Nous en parlerons la semaine prochaine. Ciao.
L'atelier des médias.